Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Agora Côte d'Azur et bienvenue dans Lézard des Lézards. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un tableau de Charles Nègre. Et oui, je vous rappelle que Charles Nègre, s'il est connu comme étant un pionnier de la photographie, est avant tout un peintre très sensible. Et attention, le tableau dont je veux vous parler n'est pas n'importe où. Il s'agit de Saint Paul, premier ermite, exposé à la cathédrale de Grasse aux yeux de tous. Une œuvre trop peu étudiée, comme la plupart des peintures de Charles Nègre, cet artiste grassois connu à l'international. Et oui, son talent photographique a plongé dans l'oubli, son talent pictural. D'ailleurs, si vous vous intéressez à sa vie, je vous informe tout de suite que vous aurez du mal à trouver des livres au sujet du peintre, mais vous trouverez myriades de bouquins au sujet du photographe. Charles Nègre est né le 9 mai 1820 à Grasse. Il quitte sa ville natale à 19 ans pour rejoindre les cours des beaux-arts parisiens. En 1863, il revient à Grasse à cause de sa santé fragile. Il devient professeur au lycée impérial de Nice et meurt dans l'oubli le 16 janvier 1880 à Grasse. Il n'est redécouvert qu'en 1936 grâce aux grandes expositions photographiques de Paris et New York. Charles Nègre peint la mort de Saint Paul, premier ermite, en 1848, date du Salon de Paris. En 1848, il vient tout juste de finir ses études parisiennes auprès de Jean-Dominique Ingres. C'est sûrement ce qui explique l'influence ingresque au sein du tableau. Il s'agit d'un tableau peint sans commande. Il peint en vue d'être exposé au Salon de 1848. Il s'agit peut-être même d'une œuvre de fin d'études. Le Salon de Paris de 1848 est un salon particulier. La Seconde République y a aboli le jury de sélection et sans sélection. Le salon est ouvert à tous. Près de 5000 artistes y assistent, avec pour thème « Liberté, égalité, fraternité ». Selon De La Jevenet, un homme de lettres et critique littéraire du vrai nom de Henri Blas de Berry, le salon est un banc d'essai pour les artistes qui ne sont pas encore professionnels et qui n'ont pas fini leur classe. Je le cite, « Les sujets de religion sont également nombreux, mais quel que soit le talent qui s'y révèle, comme les peintres n'ont pas la foi, leur composition ne s'élève guère au-dessus du médiocre, l'érudition et une exécution convenable ne suppléant pas à l'absence du sentiment religieux. » Charles Nègre est loin d'être le seul à avoir proposé un tableau religieux. C'est également le cas de Eugène Delacroix qui nous donne à voir le Christ au tombeau, le baptême du Christ d'Alphonse le Henave ou encore le pied de la croix de Henri Lehmann, lui aussi élève de Ingres avant d'ouvrir son atelier en 1847. À travers les œuvres proposées, on remarque l'influence de l'orientalisme grandissant au sein des peintres français, des scènes orientales ayant lieu dans des marchés, des femmes dénudées, des bains et beaucoup de scènes mythologiques. Charles Ingres ne se distingue pas à travers la multitude d'artistes, mais le salon et son choix de travailler autour d'une peinture d'histoire religieuse lui donnent l'occasion de travailler sur une toile de grand format et de faire ses premiers pas dans le monde de la peinture académique et des commandes. Le sujet du tableau est la mort de Saint Paul, premier ermite. Selon Saint Jérôme, Saint Paul aurait été le premier père du désert de la Thébaïde, l'Égypte, où il serait mort vers 342. Il est donc plus ancien que Saint Antoine, père des moines. Pour cette raison, Saint Antoine vient le rencontrer pour apprendre du premier ermite. Lorsqu'il se retire, un troupeau d'anges l'informe que Saint Paul est mort. Saint Jérôme décrit sa mort de la manière suivante. Ayant roulé et tiré ce corps dehors et chanté des hymnes et des psaumes selon la tradition de l'Église catholique, il était fort fâché de n'avoir rien pour fouiller la terre et pensant et repensant à cela avec inquiétude d'esprit, il disait « Si je retourne au monastère, il me faut 3 jours pour revenir, et si je demeure ici, je n'avancerai rien. Il faut donc beaucoup mieux que je meure et que, suivant les vaillants soldats, ô Jésus-Christ, mon cher maître, je rende auprès de lui les derniers soupirs. » Comme il parlait ainsi en lui-même, voici 2 lions qui, sortant en courant du fond du désert, faisaient flotter leurs longs crins au-dessus du cou. Ils lui donnèrent d'abord de la frayeur, mais élevant son esprit à Dieu, il demeura aussi tranquille que s'ils eussent été des colombes. Ils vinrent droit au corps du bienheureux vieillard, et s'arrêtant là et le flattant avec leur queue, ils se couchèrent à ses pieds, puis jetèrent de grands rugissements pour lui témoigner qu'ils le pleuraient en la manière qu'ils le pouvaient. Ils commencèrent ensuite à gratter la terre avec leurs ongles en un lieu assez proche de là et, jetant à l'envi le sable de côté et d'autre, firent une fosse capable de recevoir le corps d'un homme. Et aussitôt après, comme s'ils eussent demandé récompense de leur travail, ils vinrent, en remuant la queue et la tête basse, vers Antoine et lui léchaient les pieds et les mains. Il reconnut qu'il lui demandait sa bénédiction, et soudain, rendant des louanges infinies à Jésus-Christ de ce que même les animaux irraisonnables avaient quelque sentiment de la divinité, il dit « Seigneur, sans la volonté duquel il ne tombe pas même une seule feuille des arbres et le moindre oiseau ne perd la vie, donnez à ces lions ce que vous savez leur être nécessaire. » Et après, leur faisant signe de la main, il leur commanda de s'en aller. Lorsqu'ils furent partis, il courba ses épaules affaiblies par la vieillesse sous le fardeau de ce corps saint et l'ayant porté dans la fosse, jeta du sable dessus pour l'enterrer selon la coutume de l'Église. Après son exposition au Salon de 1848, l'œuvre est achetée par Louis-Napoléon Bonaparte, le prince président, en 1851, année précédant le coup d'État qui transformera la République en empire. Puis, il est donné à l'église paroissiale de Grasse, qui l'a placée jusqu'à maintenant dans la cathédrale. C'est ce que nous prouve la lettre du ministère de l'Intérieur envoyée à l'église paroissiale de Grasse le 18 août 1851. Monsieur et chers collègues, j'ai l'honneur de vous annoncer que je viens d'accorder à l'église paroissiale de Grasse, bien que vous m'en ayez fait la demande tardive, un tableau de Monsieur Nègre représentant la mort de Saint Paul. Je me félicite, monsieur et chers collègues, d'avoir pu répondre ainsi au désir que vous avez exprimé. Au sortir de la Révolution française, l'église reconstruit ses lieux de culte. Dans les années 1850, l'église tente de remeubler les lieux qui sont nus. L'État envoie donc plusieurs œuvres qui datent d'avant 1789 et qui étaient mises en dépôt de l'État ou des œuvres d'après la Révolution française. Ce Charles Nègre a pu avoir été acheté par l'État pour être reversé à l'avenir dans un lieu de culte et le Salon de 1848, ouvert à tous, a pu faciliter cette opération de meublement des églises puisque l'État a ainsi pu acheter plusieurs œuvres religieuses à même le Salon. D'après la lettre, c'est l'église paroissiale de Grasse elle-même qui a réclamé le tableau, sans doute pour honorer le peintre originaire de la commune grassoise. Un vœu donc exaucé. Mais attention, ce n'est plus l'église paroissiale qui est propriétaire de ce tableau, mais la commune de Grasse. Et oui, en 1905 est votée la loi de séparation de l'église et de l'État. La conséquence première de la mise en application de cette loi se joue sur la propriété. Les bâtiments n'appartiennent plus à l'église, mais bien aux communes et à l'État. Il en va de même pour les biens présents dans les lieux sacrés. Les églises et lieux de culte ont été reconstruits sur les terrains mis à disposition par les communes. Ces lieux de culte sont donc légalement propriété des municipalités ou de l'État. Et cette propriété s'applique sur ce qui se trouve dans le lieu en question. Mis à part si une personne lègue une œuvre ou un autre bien à l'église, aucun bien ne revient directement à cette dernière. Cette loi a été perçue comme une spoliation des biens de l'église et des associations se sont mises en place pour lutter contre cette loi, en vain bien sûr. Je vous invite à présent à regarder l'œuvre avec moi. Saint Paul est couché, blanc, dans un drap qui se fond avec sa chair. C'est un homme vieux et maigre, les traits de son visage sont crispés, puisqu'il n'est pas encore en paix, n'étant pas encore enterré. Sa tête est couchée sur un tronc recouvert par le drap que porte Saint Paul. Une auréole subtile l'entoure, un lion lui lèche les pieds, couché à côté de Saint Antoine en signe de tristesse. Saint Antoine est accroupi et regarde Saint Paul. Il porte des habits marrons, ce qui contraste avec les habits du défunt. Il a ses mains jointes, mais ne touche pas Saint Paul. Il sait qu'il est déjà mort, il n'y a plus rien à y faire. Il a un visage triste et désolé, ses joues sont rosies pour représenter la vie en contraste avec le visage livide du défunt. Sa tête est également entourée d'une fine auréole, encore moins perceptible que celle de Saint Paul. Une lionne est placée au second plan, elle creuse la sépulture. Le paysage environnant est aride, il s'agit du désert qui représente le dépouillement et la vie d'ermite qu'a vécu Saint Paul. Il y a peu d'herbe et celle-ci est brûlée. Il n'y a pas de vie où celle-ci doit se créer une place à partir de rien. Le paysage est dominé par des roches grises qui nous font penser à du calcaire. Il y a beaucoup de hors-champs, mais la scène représentée est entièrement visible et seul le paysage n'est pas représenté intégralement. Les deux personnages ont des traits fins. La chair est palpable de par les muscles et les os qui sont facilement visibles sous la peau. Un cintre doré forme une sorte de parabole au-dessus de la scène. Le tableau est littéral. Charles Nègre a représenté la scène à partir des écrits sans prendre beaucoup de liberté. Chaque élément de la peinture nous ramène à l'histoire. Il s'agit d'une œuvre narrative qui nous donne à voir une scène en train de se passer. Chaque détail de l'œuvre nous informe sur la scène et permet aux spectateurs de reconstituer l'histoire en voyant le tableau, ce qui évoque la fonction éducative dont fait preuve l'art religieux. En effet, l'Église cherche à éduquer ses fidèles à travers l'art. Ici, la représentation de cette scène informe le spectateur de la présence de Dieu. Toute personne, même si elle n'a pas été éduquée sur les enseignements religieux, comprend la scène de manière générale. Le paysage dénudé nous rappelle le dépouillement de saint Paul et sa piété. Il a vécu en ermite, seul, dans un paysage aride et coupé de tout. Le paysage est l'allégorie de saint Paul, puisque chaque élément se crée une place à partir de rien, comme les herbes qui poussent à partir du sable. Nous pouvons nous interroger quant au lieu pris en modèle par Charles Nègre pour représenter le paysage du tableau. S'il s'agit réellement d'un paysage inspiré de sa région natale, comme les alentours de Grasse, Roquebrune-sur-Argent, etc., ce tableau pourrait être un hommage à la naissance du christianisme en France, puisqu'en effet, il est probable que le christianisme soit arrivé en France grâce aux marchands venus d'Orient. Malgré son statut d'œuvre religieuse, il n'y a que très peu d'éléments purement religieux. Seules les fines auréoles sont les symboles exclusivement religieux du tableau. Peut-être aussi la présence divine à travers la lumière pâle qui traverse le tableau et illumine les deux protagonistes, même s'il s'agit également d'un procédé technique qui nous montre la scène et met en évidence les personnages. Mais le plus probant est le cintre doré. Le cintre doré qui surplombe le tableau est une référence divine. L'emploi de l'or fait directement référence au domaine du sacré et renvoie à la tradition médiévale de situer l'espace sacré par un fond doré. Charles Nègre réalise une scène religieuse contenant peu d'éléments religieux et par conséquent probante de réalisme. Le tableau reste accessible à tous. Le but de Charles Nègre était peut-être de toucher les croyants par ce tableau, mais également ceux qui ne croient pas, les sceptiques qui, malgré l'aspect religieux de cette œuvre, s'en retrouvent touchés. Car oui, ce tableau provoque une tristesse réelle face à cette scène macabre. Le travail de couleur, de composition et l'emplacement dans lequel il se trouve actuellement pousse à la solennité. J'espère que vous irez jeter un coup d'œil à ce tableau joyau de la ville de Grasse, présent dans la cathédrale de Grasse. Cette œuvre vaut le détour, croyez-moi, surtout une fois qu'on a les clés pour la comprendre. J'espère vous avoir passionné le temps de cette émission et je vous dis à très vite dans Les Arts des Lézards.